marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Souleymane Bachir Diagne, un monde de traduction.
Je suis Souleymane Bachir Diagne, je suis professeur à Columbia University. Je suis dans deux départements, le département d'études francophones où j'enseigne pour l'essentiel la philosophie française, et je suis dans le département de philosophie où j'enseigne l'histoire de la philosophie et l'histoire de la logique mathématique. Et avant cela, avant d'être à Columbia University, j'ai enseigné pendant 20 ans chez moi, au Sénégal, à l'université Cheikh Diop de Dakar, puis pendant 8 ans à Northwestern University à Chicago.
La vérité, c'est que, professeur, vous êtes un crack reconnu à la précocité avérée. Vous êtes un génie à l'inspiration inépuisable.
Bonjour monsieur le professeur, vous avez déjà entendu ce dialogue qui est un dialogue réel.
Hein ? C'est un dialogue tout à fait réel et qui me surprend toujours.
On dirait Jean d'Ormesson avec Julien Doré qui s'était fait tatouer son nom sur son épaule. Histoire et philosophie des sciences, alors on reprend vos spécialités. Philosophie islamique, questions africaines, les domaines dans lesquels vous travaillez ne sont pas des spécialités que vous juxtaposez, ils peuvent s'interpréter, s'interpénétrer et entrer en conversation les uns avec les autres. Souleymane Bachir Diagne, revenons à la troisième personne, est né dans une famille de Saint-Louis du Sénégal, qu'animait un désir d'école. Son père, avant de devenir guide religieux soufi, était allé de son propre chef à l'école française. On est citoyen français depuis longtemps à Saint-Louis du Sénégal. Le fils a suivi le même chemin, un peu plus loin, l'école normale supérieure à Paris, les universités à Dakar et aux États-Unis. Il passe du Wolof au français, du français à l'anglais. Il écrit en présence de plusieurs langues, persuadé que les concepts peuvent trouver un reflet, langue à langue. On dit souvent que la première langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais l'Europe n'est pas la seule scène de la traduction. On se souvient peut-être qu'au IXe siècle de notre ère, à Bagdad, Aristote apparut en songe, avec les yeux bleus et les cheveux blonds, au calife, et qu'une maison de la sagesse y fut fondée qui reposait sur l'échange des traditions écrites. La pensée grecque y fut traduite, davantage elle s'incorpora véritablement dans la pensée islamique. Ses tours et ses détours jusqu'à Cordoue, Éphèse sont passionnants à explorer. Et si on passe de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, qu'on pense au Tombouctou, studies, au manuscrit de Tombouctou. La connaissance est une dans sa multiplicité, et s'il y a bien un objet unique de la recherche de Souleymane Bachir Diagne, c'est la pluralité.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alors la France ne vous a pas complètement perdu, notamment grâce à l'Institut d'études avancées de Nantes qui vous retient depuis 2016 plusieurs semaines par an.
Ah ben oui, j'ai le grand plaisir de venir chaque fois à la mi-mai, dès que j'ai fini mes enseignements à Columbia University. Je viens à l'Institut d'études avancées de Nantes où j'ai été élu membre associé. Autant dire que je suis une sorte d'invité permanent, ce dont j'aime user et abuser.
Une dizaine, une douzaine d'universitaires, de chercheurs d'un peu tous les pays, avec pas mal d'Africains, pas mal d'Indiens aussi, oui, à Nantes. Et le simple fait de se retrouver à un repas où vous pouvez inviter qui vous voulez deux fois par semaine, ça vous oblige à parler aux autres de l'objet de la recherche, et c'est déjà un progrès.
C'est un très grand progrès, parce que déjà les résidents très rapidement présentent leur travail. D'abord, il est connu par la manière dont ils l'ont présenté. Ensuite, ils organisent des séminaires chacun le lundi. Très vite, les uns et les autres sont au courant des projets sur lesquels travaillent les collègues. Et donc, les discussions à table sont tout à fait animées. Et c'est d'ailleurs le but du jeu. Manger ensemble, rien de tel que de manger ensemble pour pouvoir parler des choses de l'esprit ensemble.
Parce que la traduction est réciprocité.
Et voilà.
Quand même, on va évoquer les situations de l'Afrique coloniale. Saint-Louis du Sénégal, c'est vraiment un cas un peu à part. Un journaliste spécialiste de l'Afrique, à qui je citais votre nom, me dit « Oh bah oui, mais c'est pas l'Afrique, Saint-Louis du Sénégal ».
Ah ben Saint-Louis, comme son nom l'indique, est une création française, disons une création franco-sénégalaise. Il y avait un village local qui s'appelait Ndar, Et les Français ont installé un fort. Tout ceci est bien avant la colonisation. La colonisation formelle, c'est la fin du 19e siècle. Et nous parlons ici du 17e siècle. Quand ce fort a été installé, le roi de France de l'époque, Louis XIV, avait donné le nom de son aïeul Saint-Louis pour montrer l'attachement de la France à ce bout de terrain au Sénégal. Et donc cet ensemble Ndar Saint-Louis a grandi, a grossi, a donné une population métisse, très mélangée, non seulement des Français, des Sénégalais ou des Wolofs de toutes les régions du Sénégal, mais également des Marocains qui se sont installés là. Bref, c'est devenu très rapidement une ville cosmopolite.
Une des quatre communes dont les habitants sont citoyens français et élisent dès la fin du 19e siècle un député. Mais vous pourriez peut-être donner le nom en Wolof. Saint-Louis, ça fait
Ndar.
Ah ben voilà, vous voyez. Voilà. Parce que la question de la traduction au moment colonial. Voici un téléfilm qui représente le capitaine Marchand. Le capitaine Marchand commence son expédition. Il est encore au Congo. Nous sommes en 1896. Vous êtes déjà citoyen français. C'est pas le cas du roi Roger, à qui va être décernée la Légion d'honneur au milieu d'un concours de troupes et dans le murmure et le chuchotement des officiers de l'entourage du capitaine.
Majesté, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
Bouba, tu vas bien le bégler sa tafaye bégata au fi. L'égnet, le plus bougain chamalé officier yumu andal.
De toute façon, qu'on lui traduise ou pas, ce chimpanzé ne comprend rien.
Et puis, t'as vu son costume? C'est Mardi Gras.
Le capitaine Émilie va photographier la cérémonie.
Capitaine Marchand, en effet, tu aurais prévu que moi, Roger, chimpanzé qui ne comprend rien, si le plus devin d'entre les devins avait prédit à mon père, le roi Bolo, ce qui m'arrive aujourd'hui, sa majesté, mon père, l'eût fort certainement banni. Que moi, je revêtirai un jour ce déguisement de Mardi Gras que mon ami, le roi Don Carlo du Portugal, m'a donné pour m'honorer, pour que le capitaine Marchand me fasse chevalier de la Légion d'honneur.
Allons bon, dans le film de Roger Kahn, le roi Roger parle français. Il est vrai que le français est une langue d'Afrique.
Mais oui, et cette expression-là est une expression tout à fait heureuse. J'ai une collègue, Elisabeth Bouilly, qui propose d'établir une nuance entre ce qu'elle appelle les langues africaines et les langues d'Afrique. Les langues africaines, pour distinguer les langues, on va dire, indigènes ou endogènes, qui sont dans les terroirs africains depuis très longtemps, et les langues d'Afrique que sont devenues le français, l'anglais ou le portugais.
La philosophie d'Afrique va se faire plus facilement en portugais, en anglais, en français qu'en wolof. L'oralité, ça empêche la philosophie?
Alors, pour parler de la première partie de votre question, plus facilement, simplement parce que les philosophes africains ont davantage l'habitude, aujourd'hui en tout cas, d'écrire en portugais, en anglais ou en français. Mais il y a également un mouvement qui consiste à écrire, à refaire des langues africaines, des langues de création et de science, et en particulier des langues de la philosophie. Et je participe de ce mouvement en même temps que j'écris évidemment en français ou en anglais mon travail. Alors maintenant, pour l'autre question que vous posez, c'est une question effectivement très importante qui a occupé beaucoup les philosophes africains. L'idée étant, la question étant de se demander si on pouvait être philosophe dans une tradition orale, en utilisant simplement une tradition orale. L'arrière-plan de cette question est bien entendu cette notion philosophique que la philosophie n'est pas reproduction simplement de l'existant culturel, mais démarche critique. Alors toute la question est de savoir si on peut avoir une démarche critique lorsque la mémoire est si occupée à transmettre le plus fidèlement possible des contenus d'une génération à une autre. En d'autres termes, est-ce que on peut imaginer que en même temps qu'il y a une transmission d'un contenu de connaissance, il y a également une démarche qui examine ce contenu, qui le critique.
Mais il y a une autre façon d'aborder la question. L'encre qui sèche à partir du moment où on écrit, c'est l'épuisement.
Eh ben oui.
De l'élan vital de l'oral.
Mais voilà. Et donc, justement, ceux qui sont les défenseurs de l'oralité ont deux arguments. Un premier argument consistant à dire qu'en définitive, il faut se souvenir de la grande leçon de Platon, qui disait que le mot écrit est un mot qui n'est plus vivant, qui n'est plus en mesure de répondre ou de se reprendre ou de se critiquer, d'une certaine façon. Ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, et qui répond plus directement sans doute à votre question, c'est qu'en fait, si on étudie attentivement les traditions orales, on peut se rendre compte que certains textes oraux, si on peut utiliser cette formule un peu contradictoire, certains récits oraux sont une reprise critique d'autres récits oraux. Donc, avec la patience de l'examen de cette tradition, on peut se rendre compte qu'en définitive, même dans l'oralité, il y a cet aspect d'autocritique de soi, de reprise de soi sur le mode de la dérision, sur le mode de la parodie, etc., etc.
Vous intéressez aussi beaucoup, je citais les Tombictou Studies, aux manuscrits, aux traditions d'érudition écrite qui s'échangent, par exemple, dans ce lieu de commerce. Ce reportage de RFI date de 1991. On y entend Mohamed Zuber bien avant les attaques islamistes contre la ville.
Nous avons collecté plus de 6000 manuscrits et nous avons microfilmé environ 2500.
Vous preniez tout manuscrit ou vous aviez des choix particuliers sur certains types de manuscrits ?
Les manuscrits qui nous intéressent le plus, c'est les manuscrits d'intérêt historique. Ensuite, les manuscrits écrits par les Soudanais eux-mêmes, quel que soit le sujet, qu'ils soient d'inspiration juridique, historique, religieuse, là, nous le collectons systématiquement. D'autres manuscrits, des manuscrits par exemple islamiques, en provenance par exemple du Maghreb, du Moyen-Orient, nous les collectons s'ils remplissent certaines conditions. C'est-à-dire que si on trouve un vieux manuscrit, très ancien, et qui n'est pas édité, qui n'est pas très connu, qui est inédit, nous le collectons également. Il y a des personnes qui n'acceptent jamais. Pour eux, c'est une honte que de vendre un manuscrit.
Il dit qu'il était d'abord intellectuel.
Il est millionnaire d'âge.
Il ne gagnait presque rien dans le maraboutage. Et il a jugé nécessaire de jumeler ça au commerce.
Bon,
il a continué son commerce. En même temps, il faisait toujours la collecte des bouquins. Il dit qu'il a aussi travaillé avec son père. Du moment que celui qui partait dans les brousses, il est parti jusqu'à Niger, vers Goundam, Diré, tout ça, pour faire la collecte des manuscrits très très intéressants qu'il a toujours apporté à son père.
Collecte vers le sud et puis aussi évidemment influence et lien avec le Maroc, tel ou tel grand notable de Tombouctou, quand l'Empire Songhaï tombe, se retrouve au Maroc, au milieu des érudits marocains.
Oui. Et ceci est un excellent complément à ce que nous venons de dire de l'oralité, parce qu'il faut se souvenir que l'Afrique, ce ne sont pas seulement des cultures orales. Ça, c'est un stéréotype, l'idée que l'Afrique est par essence une culture de l'oralité est une idée fausse, parce que l'islamisation d'une grande partie de régions très importantes de l'Afrique a signifié non seulement l'adoption d'une nouvelle religion, bien entendu, mais également l'adoption de l'écriture arabe, soit par des érudits qui ont écrit directement en arabe, ou alors qui ont utilisé les caractères arabes pour écrire les langues locales. Cette littérature, d'ailleurs, qui consiste à utiliser des caractères arabes pour écrire d'autres langues, s'appelle Ajami. Donc, le persan, le turc ont été des Ajami, et la même chose s'est passée en Afrique. Alors, il est cet homme, Zubair, qui est un grand érudit, quelqu'un qui a beaucoup fait pour faire connaître les manuscrits de Tombouctou, d'abord pour les réunir, pour les faire connaître, est justement un des traducteurs d'un grand savant, d'un grand philosophe en même temps qu'un jurisconsulte et un théologien de Tombouctou, de la période de l'âge d'or, si vous voulez, de Tombouctou, qui est Ahmed Baba. Et comme vous l'avez dit, Ahmed Baba a été une des victimes de l'expédition envoyée par le sultan du Maroc pour détruire ce qui restait de l'empire Sonrai, dont Tombouctou était la capitale intellectuelle. Ce n'était pas la capitale politique, qui était plutôt Gao, mais c'était la capitale intellectuelle. Elle avait d'abord été la capitale intellectuelle du Mali. Et c'est lors de cette expédition qu'Ahmed Baba a été capturé par les soldats marocains qui l'ont emmené avec eux au Maroc. Et les savants marocains ont été surpris du savoir très étendu de cet homme qui venait du sud, d'une région dont ils ne pensaient pas qu'elle abritait comme ça un centre intellectuel de cette importance. Et Ahmed Baba a enseigné quelques années au Maroc durant son exil forcé, avant de rentrer chez lui à Tombouctou.
Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Allez, une idée reçue. Nous cherchions, pour évoquer le souvenir de votre père, vos conditions d'enfance à Saint-Louis du Sénégal, une confrérie soufie, mais on est allé évidemment vers les mourides. Et vous ?
Mais vous avez très bien fait. Alors, mon père était un des responsables de la confrérie Tidiane, qui est l'une des deux grandes confréries avec la confrérie mouride du Sénégal. Mais il adorait la littérature mouride et la poésie de Cheikh Amadou Bamba en particulier, le fondateur.
Il faut toujours écouter la manière dont les autres parlent de Dieu.
Absolument.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Souleymane Bachir Diagne, le monde des traductions, c'est votre grand programme d'études de ces années-ci qui croisent un autre sujet de prédilection. Comment philosopher en islam ? Je reprends le titre d'un livre que vous avez publié récemment aux éditions Philippe Ray. La philosophie et traduction. Traduction de la Grèce. La philosophie est née en Grèce.
Alors, elle est née un peu partout. Elle est née partout où les humains se sont interrogés sur la signification de leur humanité, sur le fait qu'ils étaient mortels, sur le fait qu'il fallait enterrer ses morts et sur le fait qu'il fallait produire de l'art. Donc la philosophie ne peut pas avoir un lieu unique d'origine. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une tradition philosophique liée à la Grèce, qui a été dont ont hérité les auteurs du monde islamique et dont on a hérité par la suite également en Europe. Et puis nous l'avons dit et vu tout à l'heure, le monde islamique s'étant approprié cette philosophie et elle est allée jusqu'à Tombouctou.
Alors on va remonter vers la source. J'entends bien qu'il y a pluralité de sources, mais vers une de ces sources qui est la source grecque. Nous sommes maintenant au IXe siècle, bien avant l'époque que nous évoquions Tombouctou et le Maroc. Et nous sommes chez le calife de Bagdad, Al-Mamoun, dont Jean Jolivet raconte un songe fameux.
Al-Mamoun aurait vu un personnage très, très impressionnant en rêve et qui lui aurait dit « Je suis Aristote ». Et Al-Mamoun aurait dit « Je voudrais te questionner ». Eh bien, donc, questionne, qu'est-ce que le bien ? Et alors, Aristote répond, le bien, c'est ce qui est conforme à la raison. Et ensuite, eh bien, le bien, c'est ce qui est conforme à la religion. Et enfin, le bien, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est conforme à l'opinion de tous. Et après, ben après il n'y a pas d'après. Donc il y a trois définitions possibles du bien qui font converger en quelque sorte la conscience commune, la révélation et la philosophie. Il est évident qu'il y a là un essai de, comment dirais-je,
de légitimer la philosophie.
Légitimer la philosophie.
Qui n'était pas en odeur de sainteté, il faut dire la vérité en islam.
Qui ne l'a jamais été vraiment.
Ah, Jean Jolivet tombe d'accord avec Abdelwahab Medeb, le grand intellectuel tunisien. C'est une émission de Medeb sur France Culture. La philosophie n'est pas en odeur de sainteté dans l'islam. Ah, la formule est drôle d'ailleurs.
Oui, je dirais d'abord, alors, cette formule que Abdelwahab Medeb prononce, Abdelwahab qui dont la voix nous manque beaucoup aujourd'hui, en ce temps où nous avons besoin d'entendre ce genre de propos, interprète ainsi une situation qui a été effectivement celle de l'islam. Parce que il s'est agi, lorsque l'islam, l'expansion de l'islam a fait que le monde des islams s'est incorporé physiquement, dirais-je, les centres où était étudiée la philosophie grecque, la question s'est posée aux intellectuels musulmans de savoir s'il fallait vraiment s'occuper de cette discipline étrangère qui était la philosophie, qui se prétendait sagesse, alors que, disait-il, nous avons la sagesse puisque nous avons la révélation coranique. Alors, il y avait une hésitation parce que, de notre côté, vous avez tout ce qui poussait précisément pour avoir une curiosité vis-à-vis de cette sagesse étrangère et ce qu'elle pouvait apporter de connaissances et d'ouverture. Il y a toujours eu cette opposition, cette tension entre ces deux mouvements. Et d'ailleurs, le texte de Jean Jolivet auquel Abdelwahab Medeb et son interlocuteur font allusion, dans ce texte-là, Jean Jolivet rappelle que le rêve, comme chez Freud, c'est une façon aussi de résoudre une certaine tension. Donc ce calife, s'interrogeant sur ce qu'il fallait faire de la philosophie grecque, voit en songe Aristote, ça lui permet de dénouer en quelque sorte la tension dans laquelle il vivait. Il y voit le signe d'un encouragement certain à s'intéresser et à s'ouvrir à la philosophie grecque. Et c'est au sortir de ce rêve, dit la légende, c'est parce que c'est une légende, mais une légende qui a du sens, c'est au sortir de ce rêve qu'il a fondé la maison de la sagesse, la Bayt al-Hikmah, à Bagdad, qui était une institution donc de l'État, du califat abbasside, pour traduire systématiquement les ouvrages de philosophie et de science grecque. Il faut se rappeler que la philosophie, ce n'était pas simplement la spéculation métaphysique en ce temps-là, c'était tout aussi bien la médecine, l'astronomie, les mathématiques, etc. Donc, voilà un encouragement politique cette fois-ci aux intellectuels qui n'avaient pas attendu évidemment cet encouragement politique pour se mettre à la traduction et à l'étude. Heureusement que le monde académique n'est pas à la traîne du monde politique, n'attend pas la permission du pouvoir pour faire ce qui est son travail.
Donc à Bagdad, une autre scène de la traduction, l'Europe, c'est une leçon que vous répétez souvent, Souleyman Bachar Diagne n'est pas la seule scène de la traduction. Les membres de la traduction, il y a une question à poser, c'est le passage de la langue sacrée à la langue profane. Et donc la question qui vient est celle de la traduction du Coran. La révélation, elle s'adresse à tous les humains, alors il faut bien parler la langue des humains, qui n'est pas toujours l'arabe.
Mais oui. Alors, si vous voulez, la difficulté vient de ceci. À la différence, si nous faisons la différence entre le Coran et la Bible ne parle pas de sa propre langue, alors que le Coran, d'une manière autoréférentielle, dit lui-même, de lui-même, qu'il est en langue arabe. Nous t'avons envoyé ce livre en langue arabe, dit le Coran. Donc, le lien entre la révélation et la langue dans laquelle elle est devenue humaine est clairement indiqué. D'où une question qui était la question de la traduction maintenant de cette révélation en arabe dans d'autres langues humaines. Qu'est-ce qui restait de ce lien sacré qui avait, semble-t-il, lié la révélation, la parole divine, à l'arabe, langue dans laquelle cette parole s'était incarnée, lorsque cette parole passait dans d'autres langues. Donc la question de la traduction se pose différemment, dirons-nous, pour le Coran et pour la Bible.
Ça suppose recherche de la réciprocité. Jean Grosjean, qui a été prêtre et à qui il est arrivé de traduire des textes bibliques, toujours au micro du regretté Abdelwahab Medeb, parle de sa traduction du Coran, qu'on trouve en format de poche et qui, à l'origine, en 79, était dans la bibliothèque de la Pléiade. Écoutez bien.
Le français, c'est ma langue maternelle, j'y tiens beaucoup. Et d'un autre côté, j'ai trouvé dans ma langue maternelle moins de nourriture spirituelle que dans d'autres langues. Alors, j'ai toujours eu envie, avant que personne me le demande et qu'aucun éditeur n'y songe, ni moi-même, mais j'ai toujours eu envie de traduire en français ce qu'on pouvait lire en hébreu ou en arabe. C'était Massignon qui avait dit à un éditeur qui avait de très bonne traduction du Coran en français, mais que les lecteurs de ces traductions avaient bien du mal à comprendre comment ça avait pu convertir qui que ce soit. Alors, je finis par m'y mettre avec beaucoup de plaisir et d'entrain, sans être gêné par les autres traductions, parce que en arabe, il me semble qu'il y a un élan, un naturel que les traductions ne rendaient pas.
Donc, en traduisant le Coran, vous avez essayé de retrouver le rapport direct, immédiat, tel qu'au commencement de la lettre.
Ouais, j'ai essayé de prier le Coran, plus que de le traduire.
L'élan qui va de la lettre au verbe. Le verbe, c'est la pointe fine de la raison, vous dites. Le verbe avec un V majuscule.
Oui, d'abord ce propos de M. Grosjean est absolument magnifique pour définir ce qu'est la traduction. Quand il parle du plaisir de traduire, c'est cela la traduction. Donner hospitalité dans sa langue à un contenu qui a été créé dans une autre langue. Et ce caractère d'hospitalité est très important dans la traduction. Quand il dit qu'il a essayé non pas simplement de traduire techniquement d'une langue à une autre, mais de capter un élan, de capter un mouvement, essayer de retrouver le souffle du Coran tel qu'il est en arabe dans sa propre langue maternelle, la langue française, ça devrait être cela, la bonne traduction. Et quand il utilise ce verbe magnifique en disant qu'il a prié le Coran pour dire qu'il l'a traduit en essayant de se mettre dans son mouvement spirituel, si vous voulez, c'est tout à fait magnifique. Surtout si on compare cela à la première traduction en latin du Coran qui a eu lieu sous la supervision de Pierre le Vénérable et qui était une traduction malveillante. Pierre le Vénérable a dirigé une traduction qui consistait à dire « Regardez ce que ces gens-là sont en train de dire ». Ça, c'est de la malveillance.
Le grand abbé de Cluny.
Et oui. Et là, justement, contre cette attitude, il a redéfini la traduction dans son aspect éthique.
Juste une dernière question qui va vous permettre de reproduire rapidement la réponse d'un maître bien connu, le sage de Biondagara, en Pays Peul. Tierno, est-il possible de converser avec les gens d'une autre religion pour échanger des idées et mieux connaître leur foi ?
Et oui, et vous savez que Tierno, justement, qui a été le maître de Almodo Ampateba, le bien connu, a répondu fermement que oui. Parce que, a-t-il dit, Dieu aime tout le monde, sa miséricorde et son amour embrassent toutes choses, et il aime tout aussi bien l'infidèle.
Merci à vous, Souleymane Bachir Diagne. L'un de vos livres, Comment philosopher en islam, aux éditions Philippe Ray, et puis deux rendez-vous avec vous dans le cadre du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo pendant ce week-end de la Pentecôte. Frédéric Martin, Franck Olivard qui a préparé cette émission, Ilinka Negulesco, l'équipe de La Marche de l'Histoire, Audrey Ripouille à la réalisation, Clément Berman à la technique.